Je m'appelle Marc-Alexandre Tarot, je suis ethnobotaniste et anthropologue de la santé.
Où est-ce que nous sommes ici, Marc-Alexandre ?
Alors ici, on est sur la commune de Mana, en Guyane, en face des anciennes rizières de Mana. Et c'est une parcelle associative dont bénéficie l'association Mélis, que je préside, et où on essaye de mettre en place collectivement un jardin de plantes médicinales.
Donc vous êtes ethnobotaniste, c'est-à-dire que vous travaillez à la frontière entre l'ethnologie et la botanique ?
Exactement, c'est ça l'ethnobotanique, c'est cette discipline qui est à la croisée entre ces deux grandes disciplines que sont l'ethnologie et la botanique. Et pour faire simple, on s'intéresse aux plantes utiles, donc aux plantes qui sont utilisées par des populations, des groupes de populations en particulier.
On avance un petit peu dans la forêt ?
Ouais. Ici, c'est un peu, j'ai envie de dire, un paradis pour les ethnobotanistes parce qu'on a à la fois une biodiversité végétale extraordinaire. On est en Amazonie et puis il y a aussi toute cette biodiversité végétale cultivée dans les jardins qui est très importante. Et on a une diversité culturelle très forte, pas qu'en Guyane, mais vraiment à l'échelle du plateau des Guyanes. On a un mélange de populations extrêmement riche hein, qu'on retrouve peut-être dans des grandes villes, des grandes capitales du monde, mais dans des territoires pas forcément urbains, mais même plutôt ruraux. Je trouve ça assez rare. Et en Guyane, effectivement, on a des populations autochtones, amérindiennes, bushinanguées, des populations créoles et des populations aussi migrantes qui viennent d'un peu partout. On a une population haïtienne, on a des péruviens, des dominicains, des laotiens. Et donc tout ce petit monde cohabite et aussi utilise des plantes différentes en fonction de leur appartenance culturelle. Dans ma thèse, par exemple, j'ai pu inventorier 356 espèces médicinales utilisées par les différentes populations de Guyane.
Quelles sont les plantes qu'on peut voir autour de nous là aujourd'hui ?
Alors ici, par exemple, on a un costus, ce qu'on appelle ici la canne Congo. Alors il existe plein de costus. Celui-ci, il est assez particulier parce qu'il est bicolore. Les feuilles sont de couleur verte et blanche, jaune. Et donc, c'est un costus qui est à la fois ornemental, mais en plus, ce côté bicolore lui attribue des fonctions magiques supplémentaires. Chez les bushinanguées, c'est déjà une plante qui a un caractère sacré parce que la mémoire collective dit que c'est une des plantes qui aurait permis aux ancêtres des bushinanguées, donc aux esclaves fugitifs qui sont échappés des plantations du Suriname au 18e et au 19e siècle, eh bien de survivre en forêt, parce que c'est une plante très hydratante. Quand on prend la tige et qu'on la mâche, eh bien on peut en avaler un jus qui, si on n'a pas d'eau, eh bien peut nous permettre de survivre. Et donc, cette importance culturelle au sein de cette communauté lui attribue aussi des fonctions magiques. Et donc, dans les bains de désenvoûtement ou dans les bains de chance, comme on dit, c'est-à-dire pour se protéger des mauvais esprits, pour se protéger d'éventuelles attaques sorcellaires, eh bien c'est une plante qui est très régulièrement convoquée, mobilisée sous forme de bain ou aussi sous forme de plante amulette en étant portée sur soi.
Donc c'est une plante qui est utilisée spécifiquement par des populations bushinanguées ou pas que ?
Alors elle est utilisée par plusieurs populations, c'est même une panacée ici en Guyane, quasiment toutes les populations locales l'utilisent. Mais par exemple chez les créoles de Guyane, eh bien elle est utilisée sous forme de rafraîchi. Un rafraîchi, c'est un remède dépuratif qui s'inscrit dans une vision humorale du corps. Quand on souffre d'inflammation, c'est-à-dire quand on considère qu'on a un excès de chaleur en soi qui peut générer un certain nombre d'ethnopathologies, eh bien on va prendre une tige de cette plante, de la canne Congo, qu'on va éplucher, qu'on va mettre dans une bouteille d'eau avec un peu de couac, donc avec un peu de farine de manioc. Et c'est quelque chose qu'on va boire durant 3 jours comme une cure dépurative pour détoxifier son organisme. Par exemple, ici, face à nous, on a de l'armoise qui peut être utilisée sous forme d'alcoolature, de décoction, de bain. C'est une plante qui sent très bon, donc qui est connue par le monde, qui est d'origine asiatique, mais qui est utilisée dans toutes les régions tropicales du monde.
Ça sent un petit peu le citron.
Ouais, ça sent un peu, c'est vrai qu'il y a une odeur un peu acidulée, entre guillemets. La première chose que font les gens en général quand on leur tend une plante, c'est de la sentir. Et les plantes qui sentent bon sont souvent considérées comme des plantes qui ont des usages thérapeutiques. Ça fait du sens parce qu'en fait, cette odeur, elle est aussi le signe de la présence d'éléments chimiques volatiles, des alcaloïdes, des terpènes, qui ont aussi des activités pharmacologiques possibles. Et donc, les plantes aromatiques, les plantes odoriférantes, sont souvent aussi considérées comme des plantes médicinales importantes dans toutes ces pharmacopées.
Et donc, c'est utilisé pour quoi exactement ?
Alors, c'est une plante qui est utilisée contre les états grippaux en général, que ce soit sous forme de bain, on baigne beaucoup les enfants avec, ou sous forme d'infusion, de décoction bue. Là, il y a eu un gros regain d'intérêt pour cette plante et pour ce complexe de plantes, toutes les artémisias, les armoises, l'absinthe aussi, toutes ces plantes durant la période Covid, parce que, par effet un peu diffusion médiatique, eh bien, beaucoup de populations dans le monde ont considéré que ces plantes étaient efficaces contre la Covid, hein, que ce soit plus ou moins vrai, ça c'est pas le débat. En tout cas, jusqu'ici en Guyane, les gens sont remis à planter de l'armoise, de l'artémisia, de l'absinthe pour lutter contre les fièvres générées par la Covid-19.
Ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est qu'on se rend compte que les plantes, elles ont été amenées aussi par les hommes beaucoup. Il y a beaucoup de plantes ici qui ont été ramenées, si je comprends bien. Qui ont voyagé elles aussi.
Ouais, complètement. Bah, j'ai envie de dire, c'est l'histoire de l'humanité. Nous, humains, on a toujours voyagé avec des plantes. C'est quelque chose de tout à fait naturel et systématique d'emmener avec soi des plantes qui nous sont familières, qui nous soignent, qui nous nourrissent. Et donc, je rappelle que près de la moitié de la population est née à l'étranger, ici en Guyane. Eh bien, toutes ces personnes qui viennent d'un ailleurs, leur ailleurs à eux, viennent aussi avec des plantes et avec des usages qui sont associés à ces plantes. Et c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on est face à une pharmacopée qui se renouvelle perpétuellement, qui est extrêmement dynamique, avec des plantes introduites récemment, avec des relocalisations d'usage sur des plantes qui existaient déjà, mais que les gens n'utilisaient pas forcément, mais que les migrants reconnaissent et utilisent. Et donc, ils vont venir aussi avec ces connaissances. Il y a des introductions récentes, il y a des introductions anciennes aussi.
Par exemple ?
Alors, par exemple, moi j'ai montré dans mon travail de thèse que 8 des 10 principales plantes médicinales utilisées en Guyane sont des plantes exotiques, donc qui ne viennent pas du tout d'Amazonie ni du plateau des Guyanes. Essentiellement, sont des plantes asiatiques. Et ça, c'est vrai au sein de toutes les communautés. Même au sein des communautés autochtones, les plantes les plus utilisées, c'est des plantes exotiques qui ont été introduites, alors certes, il y a plusieurs siècles, qui ont intégré complètement les pharmacopées de ces populations, mais ce sont des panacées pantropicales comme le citron, la citronnelle, le gingembre et le curcuma.
Et donc, qui n'existait pas ici du tout.
Qui n'existait absolument pas ici. Il y a eu des flux botaniques extrêmement importants durant la colonisation, d'abord pour des raisons commerciales, parce que les colons introduisaient ces plantes dans leurs différents empires pour en faire du commerce, et puis aussi à des fins de subsistance, hein, parce que l'idée c'était aussi d'introduire des plantes qui allaient nourrir les populations qu'on essayait d'implanter sur ces territoires, qu'il s'agisse donc des colons eux-mêmes, mais aussi de leurs esclaves et des populations présentes localement. Et puis, ils ne sont pas les seuls à être venus avec des plantes. Par exemple, tout à l'heure, on est passé à côté d'une petite plante qu'on appelle, son nom c'est Aframomum malagueta, la malaguette en français. Et cette malaguette, eh bien, elle aurait été introduite par les esclaves eux-mêmes qui auraient dissimulé les graines dans leurs cheveux. Et donc, lorsqu'ils ont été déportés vers un inconnu qu'ils ne connaissaient absolument pas, le peu de choses qu'ils auraient réussi à prendre, c'est quelques graines importantes pour eux qu'ils ont dissimulées comme ils le pouvaient et qu'ils ont introduites ici en Amérique. Et ce qui est fabuleux, c'est que plusieurs siècles après, eh bien, ils sont quasiment les seuls à perpétuer la culture de ces plantes. Et d'ailleurs, elles en portent même le nom, puisque en français, aujourd'hui, en Guyane, on l'appelle poivre de Guinée. Et en Ngué-Tongo, on l'appelle Ngué-Kondé-Pépé, ça veut dire aussi le poivre du pays des Noirs.
Ngué-Tongo, c'est la langue Bushinengué ?
Le Ngué-Tongo, c'est la langue des Bushinengué, ouais. En tout cas, des Djouka, des Aloukou et des Paramaka. C'est la même langue qui est parlée avec des variations dialectales. Alors, un autre exemple de plante magique, entre guillemets bien sûr, ça c'est Dracaena fragrance. Alors c'est une plante pareille qui est très commune dans le monde des plantes ornementales, c'est quelque chose qu'on va retrouver en pépinière facilement, mais en Afrique subsaharienne, dans toute la zone du Sahel, c'est une plante qui est utilisée comme borne magique un petit peu à l'entrée des villages, c'est-à-dire qu'elle est plantée à l'entrée des habitations ou des villages, et elle va servir de barrière contre les forces maléfiques invisibles. Et cet usage un peu magique, eh bien, il a été importé sur le continent américain par ces populations afrodescendantes. Et aujourd'hui, on la retrouve aussi à l'entrée des habitations et de certains villages créoles et aussi dans les villages bushinengués.
Puis ce qui est intéressant aussi dans votre travail, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux plantes et aux usages que les gens en ont, c'est aussi tout leur mode d'explication du monde qui se déploie.
Complètement, complètement. S'intéresser aux plantes, s'intéresser à des ethnomédecines particulières, c'est bien sûr essayer de comprendre toute une cosmovision qu'il y a derrière, tout un ensemble de schèmes de représentation, de schèmes explicatifs, de la maladie, des relations entre les entités humaines et les entités non humaines, entre le monde qui nous environne et nos sociétés. Et donc c'est extrêmement important parce que ben, ça permet aussi de montrer qu'il y a d'autres façons de voir le monde qui sont tout à fait honorable, tout à fait respectable, et à qui on doit aussi donner une part de vérité, de parole, quoi. Alors par exemple, ici, on a un bon exemple d'une plante qui permet d'appréhender qu'il y a vraiment des modes de compréhension et de classification du monde végétal qui diffèrent d'une société à l'autre.
Ça ressemble à un mimosa ?
Ouais, c'est un mimosa, c'est Mimosa pudica. Et parfois, cette compréhension, elle répond aussi à des logiques associatives qui peuvent être assez intéressantes à observer. Par exemple, touche cette feuille, tu verras.
La feuille se referme en fait.
Voilà, la feuille se referme automatiquement. En fait, ça répond à un réflexe évolutif qui fait que face à la prédation, elle va se refermer pour être moins facilement mangée. En tout cas, dans un certain nombre de sociétés, le fait qu'elle se referme, par exemple chez les créoles, on l'utilise sous la forme de bain magique, où on considère que quand on se baigne avec cette plante, et qu'on a vécu un événement traumatique ou même simplement qu'on a un chagrin d'amour, c'est toute cette page négative de son existence qui va se refermer comme se referme la feuille avec laquelle on se baigne quand on la touche. Donc évidemment, il y a une logique associative derrière, mais qui est quand même très intéressante, je trouve, à décrire, à expliciter. Et même dans les noms vernaculaires qu'a cette plante ici en Guyane, c'est quelque chose qui ressort. Par exemple, en créole, on l'appelle « mourir levé », ça veut dire « mourir et ressusciter ». En Nengue Tongo, donc la langue des Bushinengue, son nom c'est Tapuipangi, Gamma Tapuipangi. Grand-mère, referme ton pangi, NDRL, les étrangers arrivent. Et donc voilà, il y a toujours. Moi j'aime bien, je m'intéresse beaucoup aussi au nom vernaculaire qui finalement exprime et explique beaucoup de choses qu'on peut observer quand on observe la nature tout simplement.
Et donc ça s'appelle
Mimosa pudica.
Ça porte bien son nom.
Ah oui, elle porte bien son nom, Mimosa la pudique. On l'appelle aussi Marie pleine de honte. Elle a plein de noms comme ça qui font référence au fait qu'elle soit a priori pudique. Alors cette plante, elle est intéressante. Elle est connue même en Europe, on la trouve dans les pépinières. C'est un calancoé, c'est une crassulacée. On la vend en Europe comme une plante ornementale, mais ici, c'est avant tout une plante médicinale qui a plein d'usages. D'abord, elle est considérée comme une plante hypotensive. Les gens qui font de l'hypertension vont en boire le jus, vont décocter la plante et vont boire cette décoction. C'est aussi une plante qui est utilisée pour les problèmes oculaires. Donc on va instiller le jus de la plante dans les yeux en cas de conjonctivite, en cas de problèmes oculaires divers. Et puis c'est aussi une plante qui est considérée comme magique pour ses raisons, physiques, pour ses raisons, pour l'écologie même de la plante. C'est une plante qui repousse très facilement, il suffit de poser une feuille à terre et des racines vont sortir de cette feuille et vont faire un nouveau plant. Et pour la petite histoire, dans les sociétés créoles, quand on est enfant, quand on est amoureux de quelqu'un, on écrit le nom de cette personne sur la feuille de Calancoé, on la met dans un livre et on dit que si elle fait des racines, c'est que cette personne nous aime également. Et évidemment, elle fait toujours des racines, parce que quand vous mettez une feuille de Calancoé dans un livre, elle finit toujours par faire des racines. Mais en tout cas, ça lui a quand même attribué, ça a contribué en tout cas à lui attribuer des propriétés magiques, si bien que par exemple, en Nengue Tongo, littéralement, elle est appelée la feuille merveilleuse ou la feuille magique. C'est vraiment son nom. On l'appelle aussi Zeb Maltet parce qu'on dit que quand on pose une feuille chauffée sur le front, ça soigne les céphalées. Et donc il y a des personnes ici, quand ils ont des maux de tête importants, qui s'endorment avec une feuille de Calancoé sur le front. Ici en Guyane, il y a un maintien assez généralisé et assez important de l'usage de plantes médicinales pour des raisons diverses. Plein de populations ont l'habitude depuis très longtemps d'utiliser des plantes pour soigner et ont gardé cette habitude, même face à l'occidentalisation croissante de leur mode de vie. Il y a aussi le fait que l'accès justement à cette biomédecine souvent est rendu difficile par un certain nombre de facteurs. Beaucoup de personnes tout simplement n'ont pas accès à la sécurité sociale, il y a aussi des problèmes de transport, problème de délai d'attente pour avoir un rendez-vous chez le médecin ici en Guyane, alors qu'on est dans un département français. Et donc tout ça fait que, pour soigner, une des alternatives qui reste à disposition de beaucoup de personnes, c'est d'utiliser cette flore médicinale qu'ils connaissent et qu'ils connaissent souvent très bien. On est dans des connaissances et dans des pratiques qui se transmettent beaucoup par voie orale, d'une génération à l'autre. Et donc beaucoup de gens ont le réflexe quand ils sont malades, surtout pour les petits maux du quotidien, pour la grippe, pour des problèmes de peau, pour des problèmes digestifs, d'aller cueillir les plantes qu'ils ont dans leur jardin, ou d'aller cueillir un peu plus loin aussi, au bord des chemins, dans les friches, dans les sous-bois. Il y a aussi cette connaissance de la flore sauvage, d'aller cueillir ce qui pour eux sont des médicaments, c'est-à-dire toutes ces plantes qu'ils connaissent, qu'ils ont à portée de main et qu'ils ont l'habitude d'utiliser.
Et aujourd'hui, vous travaillez à l'hôpital ?
Alors oui, moi je travaille actuellement à l'hôpital de Cayenne, je suis sous contrat INSERM. Mon travail aujourd'hui, c'est de mieux comprendre les représentations ethnomédicinales de la population haïtienne. On estime que 50 000 personnes originaires d'Haïti vivent en Guyane, donc c'est à peu près un sixième de la population générale. Et donc, dans un objectif de compréhension anthropologique de leurs connaissances autour de la santé, mais aussi derrière, il y a bien sûr un objectif de santé publique qui est d'améliorer la prise en charge hospitalière, la prévention, en particulier autour des maladies sexuellement transmissibles. Eh bien, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes, de les interroger sur leurs pratiques de santé et de comprendre un peu quels sont leurs réflexes thérapeutiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire face à telle ou telle maladie. Est-ce qu'ils iront d'abord voir un tradipraticien? Est-ce qu'ils iront d'abord voir un médecin hospitalier? Est-ce qu'ils feront les deux? Pourquoi? Selon quelle modalité? Et donc, tout simplement, voilà, comprendre leur vision du corps, leur façon de soigner ce corps malade. Et puis, bien sûr, moi, je suis ethnobotaniste, donc je m'intéresse beaucoup aux plantes. Et évidemment, dans ce travail, je m'intéresse aussi beaucoup à tout l'usage des plantes médicinales qui demeure extrêmement important en Haïti et même au sein de la diaspora haïtienne. Donc, voilà, j'interroge aussi beaucoup sur les plantes utilisées par cette communauté.
On risque de se prendre l'orage, là, non?
Ouais.